ce soir. Oui, c'est une soirée très particulière qui me tient beaucoup à cœur et vous allez comprendre pourquoi tout de suite même. Voilà que ça recommence, les paroles d'un homme qui savait très bien de quoi il parlait. Rachid Taha, dont on a appris la mort brutale, avait repris en 2013 son propre titre, moitié rap, moitié chanson, qu'il avait créé 20 ans auparavant, en 1993. Il avait alors, quoi, 34, 35 ans. Il avait vécu ce qu'il avait vécu, il avait vu ce qu'il avait vu, les années 70 et 80, sur les terres ouvrières de l'Alsace et des Vosges, puis de la banlieue lyonnaise, le succès et la reconnaissance nationale de son groupe Carte de Séjour qu'il avait lancé. Il était encore sûrement plein d'espoir. Rachida a dû se dire quelque chose à ce moment-là comme « c'est un mauvais moment à passer, ces saletés-là vont sûrement être balayées avec les nouvelles générations qui arrivent ». Eh bien, c'est peu dire que pour lui et d'autres aussi, cet espoir a été déçu, puisque 20 ans après, en 2013, il a ressenti la nécessité de le redire, cette fois sur un ton qu'on sentait amer comme découragé. Rachida a enregistré cette seconde version avec un des grands inventeurs du rock, Brian Eno, un musicien qui, de David Bowie à U2 en passant par les Talking Heads, a redessiné la carte de la musique populaire. D'ailleurs, on l'entendait chanter en alternance avec Rachid. Rachida, c'était un cas particulier en France. Les médias grand public continuent à le présenter comme ce sympathique musicien qui, en 1986, avait repris 12 France de Trenet, ce qui sonnait aux oreilles de certains comme une manière de célébrer l'assimilation des populations d'origine arabe à la nation française, ce qui était sans doute une façon commode de jeter un voile aux couleurs joyeuses, un peu fluo, bah oui, c'était les années 80, sur des blessures profondes, les séquelles d'une guerre inavouée menée par l'État français en Algérie, des blessures qui traversaient la France et la traversent sans doute encore. Et puis, quand Rachida a repris des chansons traditionnelles algériennes, on l'a présenté sous la rubrique « Musique du monde » dans les journaux, ce qui est déconcertant, parce que, pour ses confrères musiciens du monde entier, je pense à l'ex-guitariste de The Clash, Mick Jones, qui a collaboré avec lui, Brian Eno, je vous en ai parlé, Robert Plant, le cofondateur de Led Zeppelin, Carlos Santana, qui a repris un de ses titres, et bien Rachida, c'était bien autre chose. Un musicien visionnaire qui a fusionné le rock, la musique algérienne, indienne aussi, il la connaissait bien, le funk, l'électronique, la house, et qui détestait, à juste titre, l'idée de représenter la musique d'une communauté. Alors je vais être honnête avec vous qui m'écoutez, j'ai suivi la carrière de Rachida de loin, j'ai diffusé certaines de ses chansons, c'était difficile de passer à côté dans le cadre de certaines programmations autour de la fusion rock et musique d'Afrique du Nord, mais j'ai une très grande chance, et vous avez une très grande chance, c'est que j'ai à mes côtés quelqu'un qui a vu, pour ainsi dire, naître le talent de Rachida et dont le cœur n'a jamais cessé de battre pour lui. C'est Brigitte Giraud qui écrit des livres qui ont compté pour moi, en particulier Une année étrangère, un récit d'une rare justesse sur l'adolescence, et je me demandais comment faire pour bien parler de Rachida, et je suis tombé sur un témoignage que Brigitte a publié dans Libération. Alors Brigitte, vous allez peut-être me raconter comment et dans quelles circonstances vous avez découvert Rachida et Carte de séjour, et pourquoi est-ce que ça a autant compté pour vous ?
Ah, c'est une belle question. Alors Rachida, en fait, c'est un lien avec un lieu que nous avons, dans lequel nous avons vécu l'un et l'autre, qui est la banlieue lyonnaise, Rieux-la-Pape, même dans le nord-est de la banlieue lyonnaise, dans laquelle il est arrivé en 1978. Moi, j'y étais adolescente à ce moment-là. Je venais de découvrir le rock, David Bowie. C'était juste avant la New Wave. On était au début du mouvement punk. Et ce qui était magnifique avec les premiers concerts de Rachida, c'est que là, il y a eu vraiment l'impression que quelque chose de neuf, de totalement neuf, arrivait. Parce que cette banlieue lyonnaise, je vais la préciser un petit peu plus, comme pas mal de banlieues en France, c'était un endroit où se retrouvaient des gens qui avaient quasiment tous un lien avec la guerre d'Algérie.
Ah oui.
C'est un peu idiot de le dire comme ça, mais en y réfléchissant, je me dis que ces banlieues ont été construites un peu à la va-vite en France, oui, pour accueillir le million de pieds noirs qui a déboulé, oui, à partir de 1962, pour accueillir les premiers immigrés algériens, oui, dont faisait partie Rachid et sa famille, oui, pour accueillir les et pour accueillir aussi une population qu'on ne désigne pas, mais dont je fais partie, qui sont les enfants d'appelés, c'est-à-dire, oui, ces gens qui ont été appelés, oui, comme mon père, qui ont eu 20 ans et qui sont partis à leur corps défendant, oui, souvent en Algérie, et qui sont rentrés d'une façon un peu bizarre.
Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que vous dites, vous étiez très consciente de ce qu'il y avait de nouveau qui arrivait, le punk, la New Wave, ça se passait à Londres, ça se passait à New York, ça se passait à Berlin, et là, ça se passait là où vous étiez.
Non seulement ça se passe à Lyon,
et c'était plutôt joyeux et, ouais, pas sinistre.
Ah mais complètement, parce que ce qui est, non seulement ça se passe à Lyon, mais en plus ça se passe, Rachid était originaire de Rieux-la-Pape, comme les frères Amini. Alors ce qui est assez drôle, je suis pas là pour parler de moi, mais c'est une petite anecdote assez comme ça, quand j'y repense, Mohamed Amini faisait de la gymnastique, on faisait l'un des deux de la gymnastique de compétition, on était ensemble au club, le CGR, Club Gymnique de Rieux, ouais, et la première vision de carte de séjour avant Rachida, ouais, ça a été Mohamed Amini à la barre fixe, dans son habit de gymnaste blanc immaculé, avec des muscles magnifiques et quelque chose qui n'était pas encore de l'ordre du rock'n'roll, puisqu'au contraire, c'est le corps sain. Et ensuite, les premiers concerts, ça a été l'inverse de ça. Ça a été quelque chose qui a exulté, qui a explosé. Et il y avait ce lien à la langue arabe qui, moi, m'a reconnecté aux origines.
Bon, alors c'est justement le bon moment d'écouter la façon dont tout le monde a découvert Carte de Séjour. Ce titre funky qu'on entendait beaucoup, Roromani, qui faisait beaucoup penser au virage funky de The Clash. On en reparlera tout à l'heure.
C'est comme si tu choisis entre ton père et ta mère. Disons, Brian Eno, c'est ma patrie, Joss Stromer, c'est ma matrie.
Very Good Trip sur France Inter.
واش واش هاد الفوضى بتروف زحرا يسيل الشيخ يسوق الكاديار رعبت في السنتر فيل كان دبنا ولا حنش استنى في راس المال
Rock El Casbah, une adaptation explosive du célèbre Rock the Casbah, du groupe The Clash bien sûr, paru en 1982 par Rachita, dans un album de 2004 et qui s'appelle Take It Away, qu'il a réalisé avec son fidèle collaborateur anglais Steve Hillage. Il y a Ino qui est présent au synthétiseur, il y a aussi l'ensemble égyptien de Hossan Ramzi qui, 10 ans auparavant, avait accompagné Jimmy Page et Robert Plant, exceptionnellement réunis pour une version extatique, inoubliable, de Cash. Je vous recommande ça sans condition. Deux mots sur Steve Hillage, guitariste à l'origine. Il s'est révélé très jeune, au début des années 70, dans la galaxie du rock psychédélique anglais, tendance planante et jazzy. Il a été membre à 20 ans du groupe Gong, aux côtés de David Allen et Didier Malherbe, avant de devenir, au début des années 80, un réalisateur artistique très demandé, et puis surtout, un des pionniers de la house et de la techno en Grande-Bretagne. Il les a naturellement fusionnés avec l'hypnose hypnose psychédélique, le raga indien, qui était déjà présent chez Gong d'ailleurs, et nous y voilà, les musiques de trance d'Afrique du Nord. Alors on raconte, j'imagine que l'histoire est vraie, que c'est en passant à Paris, dans les bureaux de la compagnie de disques CBS, que Steve Hillage a entendu par hasard la musique de Carte de séjour et qu'il s'est emballé et a tenu à travailler avec ses musiciens. En tout cas, ça a été le début d'une longue amitié et collaboration entre Steve Hillage et Rachid Taha. Alors je reviens sur Rock the Casbah, Rock al Casbah, que Rachid Taha a eu l'occasion de chanter sur scène avec son co-auteur et interprète, le guitariste Mick Jones, cofondateur du groupe The Clash. Et il y a d'ailleurs une histoire amusante et assez révélatrice à ce sujet. Je ne sais pas si Brigitte Giraud, qui est avec moi ce soir et a bien connu Carte de séjour à ses tout débuts dans la banlieue lyonnaise, la connaît. En septembre 1981, Rachid Taha est parvenu à aborder les musiciens de The Clash, un groupe qu'il adulait, à l'occasion des concerts qu'ils avaient donnés à Paris au théâtre Mogador. J'y étais d'ailleurs. Et il leur a donné une cassette des chansons de Carte de séjour, qui collait à un rythme funk des mélodies nord-africaines. Aucune nouvelle des Anglais. Et puis quelques mois plus tard, au hasard, The Clash sort cette chanson Rock the Casbah, ce qui était peut-être plus que de la télépathie. Alors Brigitte, vous avez connu Rachid et sa bande au temps où Rachid animait des soirées dans une boîte de nuit, hein, c'est comme ça qu'on appelait les discothèques du temps de notre lointaine jeunesse, qui s'appelait Au Refoulé, hein, une allusion évidente au fait qu'on refoulait régulièrement les jeunes gens aux faciès nord-africains dans les boîtes lyonnaises où on allait danser. Brigitte Giraud, qui je le rappelle est auteure et se trouve avec nous ce soir à danser lors de ces soirées où Rachid Taha passait des disques, qui passait par est-il de Bo Diddley à Led Zeppelin, en passant par Kraftwerk et les Sex Pistols. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces soirées? Est-ce que vous pouvez nous en décrire une ou plusieurs? Je ne sais pas. Comment c'était?
C'était des soirées qu'on pourrait appeler œcuméniques, ce mot un peu bizarre, mais qui correspondait tellement à l'éthique et à la vision de la façon de penser de Rachid Taha. C'est-à-dire qu'au Refoulé, évidemment, c'était un endroit qui acceptait tous les gens qu'on ne pouvait pas accepter ailleurs et qui, là, pouvait se mêler à la fois les groupes qui l'invitait, mais aussi le public. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on vivait séparé, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait les beurs ou les gens qui venaient d'Afrique du Nord, et puis de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelle les blancs, nous-mêmes. Et le miracle qu'avait réussi Rachid avec ses concerts, mais aussi avec ce lieu, le Refoulé qu'il avait créé sur les pentes de la Croix-Rousse, c'est qu'il invitait tout un tas de groupes. À l'époque, au milieu des années 80, Lyon était ce qu'on a appelé à un moment la capitale du rock, comme Libération avait titré. Et donc, il y avait tout un tas de groupes qui venaient là. Il y avait à la fois, je sais pas, des gens comme Carte de séjour, des gens comme Affection Place ou des gens comme Marie Garçons, enfin, c'est des groupes aussi importants que ceux-là, mais aussi il y avait tout un tas de petits groupes de qui venaient de derrière les fagots, comme on dit, que personne ne connaissait et qui mettaient le feu littéralement à la soirée. C'est-à-dire qu'à la fois il y avait Rachid qui mixait, il y avait des copains qui étaient là, et chaque soirée était unique et formidable. Et je me rends compte aujourd'hui la chance qu'on avait de vivre cette époque totalement dingue et totalement libre.
Et est-ce que l'ambiance était pacifique ou est-ce que
complètement, absolument,
malgré le fait que les gens venaient de milieux très différents.
Mais bien sûr, mais c'est bien la preuve que c'était possible, parce que tout le monde était lié quand même par la musique.
Oui. Mais c'est des choses qu'on a pu voir d'ailleurs aussi à Paris, dans la banlieue parisienne, à l'époque du Palace, etc. Il y avait ces mélanges qui, en effet, sont inimaginables aujourd'hui.
Ouais. Ouais, mais là, on était aussi dans un quartier de Lyon. C'est le premier arrondissement, sur les pentes de la Croix-Rousse, qui était peuplé aussi de personnes qui venaient d'Algérie.
Alors bon, j'ai demandé à Brigitte Giraud de choisir des titres de Carte de séjour ou de Rachid Taha. Alors, il y avait Zoubida. Bon, hélas, j'ai dû faire d'autres choix. On n'a pas le temps d'entendre tout ce qu'on voudrait. Puis il y a aussi une chanson des années 90 qui s'appelle Non, 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 et que j'ai retenue. Qu'est-ce qu'elle évoque comme souvenir pour vous?
En fait, Non, 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 ce que j'aime dans cette chanson, j'imagine qu'on va l'écouter juste après. Non, 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 ce que j'aime beaucoup, c'est à la fois l'humour, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'humour de Rachid, son ironie, sa façon assez canaille de nous tendre un miroir, de tendre un miroir aux petits Français que nous sommes et à la France de l'époque. Là, on est, je crois, en 1995.
Oui, c'est ça. À ce moment-là. Ça mieux que moi.
Et donc, ce qui est assez chouette, c'est que vous entendrez les paroles. Est-ce que t'as du boulot? Non, non, non. Est-ce que t'es heureux? Non, non, non. Est-ce que t'as un logement? Non, non, non. Est-ce que t'as la joie? Non, non, non. Et est-ce que tu as la haine? Non, non, non. Je trouve ça extraordinaire. Et ça résume toute la philosophie de Rachid.
C'est le bon mot.
open.
No, no, no.
To all that I've said.
No, no, no.
C'est pas grave, tant pis.
No, no, no.
Est-ce qu'il y a un défi?
No, no, no.
Stop your lies right now.
No, no, no.
So long, bye for now.
No, no, no. 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 No,
Rachita, dont on a du mal à imaginer qu'il est plus avec nous, qui chantait Non, non, non en 1995, un titre qu'a choisi ce soir Brigitte Giraud, qui m'accompagne tout au long de cette émission parce qu'elle a très bien connu les débuts de Rachita avec Carte de séjour. Alors il y a une chose intéressante, il y a un moment où vous avez eu l'impression que Rachita vivait une autre histoire que la vôtre et celle de ceux et celles qui, comme vous l'écrivez, venaient de la ZUP de Rieux la Pape, une histoire plus internationale, et qu'il est, comme on disait alors, monté à Paris et que il entre guillemets vous échappait. Alors d'abord, c'est très personnel pour vous parce que vous avez un lien très fort, vous l'avez dit au début de l'émission, avec l'Algérie. Vous y êtes né à la fin des années 50, votre père y était appelé et il a refusé de porter les armes, ce qui a dû lui attirer plus que des ennuis. Ce lien très étroit avec ce pays vous a inspiré récemment un livre d'imagination, Un loup pour l'homme, que j'ai lu l'an dernier, qui a quelque chose d'oppressant et de suffocant, qui est traversé par une violence sourde, tracée toujours par petites touches, hein, c'est votre talent, et ce qui compose un tableau dont on n'arrive pas à détourner les yeux, un peu comme un film où la violence est comme ça insidieuse. Alors je me demande, qui est ce « nous » dont vous parlez dans votre témoignage de Libération ? Les filles et les fils d'appelés et les filles et fils d'immigrés ensemble, ceux et celles qui étaient refoulés et ceux et celles qui ne l'étaient pas, ou est-ce qu'il y avait des lignes de fracture plus subtiles ?
C'est une très belle question à laquelle je vais essayer d'être à la hauteur pour répondre. Mais ce nous, c'est aussi le nous de ceux qui sont en province et qui sont en banlieue. Donc c'est la banlieue de la province. Ça veut dire que quand l'un d'entre nous monte à Paris, comme on le dit, il échappe finalement à ce déterminisme qui est celui d'une classe sociale, et d'autant plus celle de Rachita, parce que lui c'est une classe sociale ouvrière, mais fils d'immigrés, arrivant en France quand il a 12 ans, parlant très mal le français, essayant de s'intégrer par le foot, etc., quand il arrive en Alsace. Donc pour lui, c'est une façon de partir de très très loin et de passer comme une comète quelques années seulement dans la banlieue lyonnaise et d'aller encore plus loin vers Paris et vers l'international. Oui. Et ça, c'est ce qui est magnifique.
Et en fait, vous avez l'impression qu'en même temps, vous en êtes fier et puis en même temps, il vous a trahi.
C'est même pas ça, mais c'est qu'à un moment, le nous va se faire sans lui. Et oui. Donc, il échappe au nous, donc on est à la fois fier et à la fois triste de rester sur place. C'est exactement la même chose que le syndrome de l'immigré, ce qu'a dû vivre la famille de Rachid, qui est venue en Alsace, lui a rejoint son père, et après, en imaginant que la famille allait peut-être rentrer, l'idée du définitif ou pas. On est sur des mêmes zones. C'était une époque, pour chercher du travail, il fallait pas traverser la rue, il fallait traverser la Méditerranée, on était dans quelque chose de tellement puissant, et on imagine bien que pour une destinée comme celle de Rachita, fallait aller bien plus loin, sinon ça servait à rien de rester échoué, entre guillemets, je mets plein de guillemets, dans une banlieue.
Mais vous avez gardé, parce que vous aviez un lien qui était étroit, ou c'était quelqu'un que vous abordiez
Non, c'était pas un ami.
C'était pas un ami,
c'était quelqu'un
même pas,
que je...
quelqu'un, même
c'était,
pas un ami
si,
d'ami.
Si, c'était un ami d'ami, si, ouais, si, c'était ouais, la bande, on va dire bon. Une bande, la bande de Rieux.
Et il a gardé des contacts avec la bande quand...
Alors ça, moi j'ai été contactée après l'article paru dans Libération. Ouais. Il y a une des personnes qui s'appelle Jérôme Savy.
Oui, qui était dans Carte de séjour.
Qui était dans Carte de séjour, qui m'a mis un petit mot, et ça a été extrêmement chaleureux et très émouvant pour moi de me remettre dans un lien plus personnel, parce que moi j'avais pas des liens personnels, j'allais les voir sur scène, on les voyait après le concert, on faisait la fête ensemble, mais c'était pas des liens intimes en fait.
Oui, oui.
Voilà, et ça, les groupes ne se rendront jamais compte de cette chose-là. C'est-à-dire à quel point des gamins qui vivent en banlieue peuvent avoir la vie sauvée parce que ils voient sur scène des gamins comme eux qui arrivent à mettre en scène leur désespoir, leur désir et leur envie de faire la fête aussi. Ouais.
Et vous avez suivi sa carrière jusqu'au bout?
Pas tout le temps. Il y a eu des moments où j'ai le moment avec un, deux, trois soleils, j'étais plus en retrait.
Avec Faudel et...
Le rapport plus oral était quelque chose qui m'intéressait pas, mais il le disait lui-même. Il disait lui-même que c'était un chanteur de rock.
Oui, mais oui, c'est ça. Tout, est-ce qu'on avait tendance à oublier en
France. Bien sûr.
Alors on va écouter maintenant Ya Raya, c'est une chanson sur la douleur de l'exil qu'a créé à Paris Dama El Harachi, célèbre chanteur de Chaabi, une des formes les plus populaires de la musique algérienne, hein, dérivée de la musique arabo-andalouse. Merci Wikipédia, voilà. Et Rachida l'a reprise une première fois en 1993 et cette version est splendide. C'était Rachida en 1993 et quelques années plus tard, en 1998, il a publié Diwan. Il y en a eu deux volumes d'ailleurs, un album de chansons traditionnelles nord-africaines que drôlement il décrivait comme l'équivalent du rock and roll de John Lennon. C'est un album que John Lennon avait enregistré en 75 où il reprenait les classiques américains de son adolescence. Alors c'est une chanson que Brigitte Giraud tenait à ce qu'on entende. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson?
Ah ben c'est quand on traduit simplement. vraiment les paroles, c'est celui qui s'en va, quoi. C'est vraiment toi qui t'en vas, l'exilé. Et ça représente vraiment ce qu'a vécu sa famille, son père qui part bien avant eux, lui qui les rejoint quand il a 10-12 ans, comme je disais tout à l'heure, avec sa mère à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Donc on imagine le choc culturel, le climat, le paysage. Et ensuite, son père va faire évidemment les 3-8, il va être OS dans différentes usines, il va être...
Lui-même a été ouvrier, enfin,
oui, lui-même est à Rieux quand il est arrivé.
Thermix, voilà, c'est ça.
Oui, il était sur la zone industrielle de Rieux et de Caluire, là où j'ai aussi travaillé, moi, pendant les vacances d'été. Il a travaillé chez Majorette, là où travaillait ma mère, donc c'est vraiment quelque chose de très circonscrit et de très connu. C'est là où il rencontre les frères Amini, dans cette, chez Thermix. Et c'est vrai que cette idée de quand ils sont arrivés à Rieux-la-Pape, ils avaient même pas de logement, ils le logeaient dans une maison de la Fondation Abbé Pierre. Cette maison en plus cette maison a pris feu. Donc comme la maison a pris feu, les HLM, l'office HLM de la ZUP de Rieux a été obligé au bout d'un moment de leur allouer un logement et ils ont atterri dans ce quartier qui était la place Renoir où était quasiment concentrée toute l'immigration algérienne, ce qui est totalement dingue quand j'y pense aujourd'hui. Nous on était deux rues plus loin où c'était un peu plus français, mais c'était vraiment comme ça. Et la façon de travailler, moi je trouve ça extrêmement touchant et en même temps ça le met à notre niveau, au niveau de chacun.
Mais alors, ce que j'ai appris, c'est que vous vous êtes penché très longuement sur l'histoire personnelle de Rachida cet été, parce qu'à Lyon, je crois qu'on vous a demandé de faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous décrire
Oui, en fait, il y a quelque chose de très concomitant, la célébration de 40 ans de rock à Lyon. Et en fait, on m'avait proposé, comme j'ai écrit un livre autour de la guerre d'Algérie, on m'avait demandé si je voulais bien écrire sur Rachida. Et ce que ne savaient pas ces personnes, sont les éditions de l'Hippocampe, c'est que j'avais vécu donc dans cet endroit-là, que je l'avais côtoyé et que j'étais une... on va dire une fan, ça s'appelle comme ça, tout simplement. Donc il se trouve que j'ai passé une grande partie de l'été à lire beaucoup de choses autour de Rachida, et notamment à lire ce livre très intéressant qui s'appelle Rock la Casbah, je crois que c'est chez Flammarion, où c'est vraiment une mine de renseignements, et j'ai lu ça avec un petit crayon avant de décrire un texte.
Alors je suis curieux, qu'est-ce que vous avez appris de plus surprenant sur son parcours, enfin,
Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand il parle de son père, par exemple, qui était en Alsace et qui faisait ses 3-8 et qui avait pour la première fois un appartement avec l'eau courante au robinet, avec une chambre où on couche sur un matelas, et avec, non pas comme les autres immigrés algériens, une Peugeot. C'est un cliché, mais je suis désolée, c'est assez marrant. Son père était un original qui avait une Sim Camille de rallye. Moi, je trouvais ça vraiment super.
Ma mère avait une Sim Camille aussi.
Mais... c'est vrai. Mais c'est peut-être pas la même, tout à fait immigration,
non,
en fait.
Non.
Voilà, sa mère travaillait dans une usine de collants, et c'est le rapport aussi à sa cousine qui a dû laisser quand il est parti, s'arracher à sa cousine. Et j'avais choisi aussi la chanson Zoubida, parce qu'il parle aussi de la condition de la femme. Ouais. Cette fille qui est mariée, Zoubida raconte ça, une fille mariée de force. Et on se rend compte quand on lit les paroles, quand on traduit les paroles, que c'était sa jeune sœur. Et cette chanson, je crois, a été écrite parce qu'il dit « Et le frère et la mère n'y ont rien pu. » Et le frère, c'était lui-même, le grand frère. Et donc, c'est le rapport à la culpabilité. Et moi, ça me bouleverse. Parce que l'art est aussi fait pour racheter un certain type de culpabilité.
Alors, est-ce que vous connaissez cette chanson qui est extraite d'un album qui s'appelle Made in Medina, que Rachida a enregistré en 2000 à Paris, Londres, entre Marrakech et la Nouvelle-Orléans? C'est un titre qui a eu beaucoup d'impact, puisqu'il a été utilisé dans la BO du film de guerre Black Hawk Down, La chute du faucon noir. Il a aussi beaucoup marqué Robert Plant, l'ex-chanteur de Led Zeppelin. D'ailleurs, si vous écoutez l'excellente production musicale de Plant ces 15 dernières années, vous serez frappé par l'influence de Rachida sur sa musique. Rachida en 2000 dans Bara Bara.
Bara Bara l'hust l'bot والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا لا حرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان عالكل اوراق
برا برا النجوم تخدم كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى تسجل سكت ولا طيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم ما بقى زين برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البعد والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا نشفو الودان عندكم حوراك برا برا النجوم تفاطر كت الشمس
Trip sur France Inter.
Thank you.
فيه قفص على ودنيا نايم يعرف سكن جبوس دايما حر وكريم دايما يدافعني بيه لي نعبر شعوري وحبي قلبي قلبي دايما حدايا قلبي قلبي دايما معايا قلبي قلبي دايما حدايا قلبي قلبي دايما معايا دايما امن بيه صاحبي صادقي دايما معاه هو دليلي وخلاصي راحن علي كل شي انا مشي حرايمي هو صاحبي داوني وفرحني كتاب في بغيي يطمني ويهديني كتاب في بغيي يطمني ويهديني دايما صاحبي وصادقي دايما معاه هو دليلي وخلاصي يوري لي بوتي يوري لي الشام والله والله يعمل امور وكرام دايما تجو زهواني ومشروعي
Rachita qui part au loin au soleil couchant dans ce titre qui évoque le mélange musique mariachi et rock'n'roll du groupe Calexico à ce qu'on appelle le rock du désert. Enfin là, c'est, en l'occurrence, c'est un autre désert. C'est un titre qui remonte à 2013. Alors, Brigitte Giraud, qui est toujours en notre compagnie, m'a parlé d'une chose qui est intéressante au sujet de Rachita, c'est le mélange masculin-féminin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ça, c'est un peu une obsession qui est récurrente, mais ce qui me frappe et ce qui m'émeut vraiment chez Rachita, c'est exactement ce rapport à la puissance retenue, à quelque chose d'assez violent qui est en arrière-plan, on le sent dans la puissance de la musique, puis quelque chose de tellement sensuel et très féminin. Et en même temps, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure autour de l'album Olé Olé, c'est-à-dire cet album où il est teint en blond, où il a même mis des lentilles bleues.
Presque pour, androgyne.
Voilà, androgyne, et j'aime beaucoup ce moment-là où il est avec un petit cuir, et c'est quelqu'un qui lisait énormément et qui lisait notamment des auteurs comme Genet, comme Pasolini, comme Virginie Despentes. Il était extrêmement cultivé et je pense que c'est quelqu'un qui a essayé d'explorer dans toutes les directions. Et je pense qu'il est allé voir là aussi ce que pouvait être ce lien au féminin.
Ben voilà, on va. Ben je pense que pour ce qui est la meilleure chose, c'est qu'on va écouter celui qui n'est plus là, on va écouter Rachita lui-même.
Pourquoi je chante? Je chante pour ne pas devenir fou. Ou bien je chante pour aller jusqu'au bout de ma folie. Chanter, c'est éviter les cachets. Enfin, les cachets, je veux pas dire les cachets intermittents du spectacle. Hein. Pour éviter les cachets, pour éviter de me cacher. Pour me sauver. Les excès, moi, je crois qu'on fait jamais assez d'excès. Non, c'est les autres qui croient que tu fais des excès, mais non. Tu fais pas d'excès, tu vois jusqu'au bout de ta vie, c'est tout. Tu fais ce que tu es, ce que tu fais. Mais c'est pas des excès pour moi. Oh, les gens qui font le plus d'excès, c'est les philosophes ou les prophètes. À la limite, parfois, il vaut mieux boire un verre de vin que de lire un livre de religion.